France Inter.
Journal Laurence Thomas, bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Scrutin XXL en Inde. Pendant 6 semaines, près d'un milliard d'électeurs de la plus grande démocratie du monde doivent voter. Des législatives pour lesquelles le premier ministre indien Narendra Modi est favori pour un troisième mandat. Israël a lancé son attaque contre l'Iran en représailles aux frappes iraniennes contre son territoire le week-end dernier. Attaque de drones ou de missiles, difficile encore à ce stade d'en savoir davantage. L'Iran affirme n'avoir subi aucun dégât. Fini les maillots de football ou les crop tops. Dès la rentrée prochaine, 5 collèges des Alpes-Maritimes expérimenteront l'uniforme. Les tenues ont été présentées hier aux jeunes et les avis sont plutôt positifs.
Et dans un quart d'heure maintenant, médicaments, panneaux solaires, que fait la France pour préserver sa souveraineté industrielle? Ce sera le sujet au cœur du débat éco du vendredi entre Dominique Seux et l'économiste Anne-Laure Delatte.
France Inter.
On a l'habitude de dire que c'est le plus grand exercice démocratique au monde.
Et pour cause, les Indiens ont commencé à voter ce matin dans le nord-est du pays. Il s'agit d'élections législatives qui vont se dérouler sur 6 semaines dans les 28 États qui forment l'Union indienne. On peut même parler de fédération. Le BJP, le parti du Premier ministre Narendra Modi, sortant, est donné favori. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour.
Vous êtes à New Delhi pour France Inter. Valérie, les chiffres donnent le vertige. Le nombre d'électeurs, c'est plus que la population totale des États-Unis, de l'Union européenne et de la Russie réunie.
Exactement, 970 millions d'électeurs, 15 millions d'agents électoraux, 1 million de bureaux de vote installés jusqu'aux régions les plus reculées de l'Himalaya. Mais l'immensité de l'Inde, son territoire est 6 fois plus grand que celui de la France et 20 fois plus peuplé, n'explique pas à elle seule que le scrutin soit étalé sur 1 mois et demi, d'autant plus que le vote est électronique. Il y a un défi logistique auquel l'Inde est désormais habituée, mais aussi des raisons sécuritaires. Les forces de l'ordre vont être déployées par dizaines de milliers le temps des élections, souvent émaillées de violence. Les bureaux de vote sont d'ailleurs classés en 3 catégories en fonction des régions, normales, sensibles et hypersensibles.
Et en cas de victoire, Valérie, Narendra Modi enchaînerait un 3e mandat d'affilée. Ce serait alors une première dans l'histoire de l'Inde.
Oui, et ça ne serait pas pour déplaire à Modiji, c'est son surnom ici, qui veut marquer l'Inde de son empreinte, comme en 2014 et en 2019. Son parti vise la majorité des sièges à la chambre basse du Parlement indien. Il s'est même fixé pour objectif d'obtenir 400 sièges sur 543, ce qui lui offrirait une majorité écrasante pour poursuivre ses réformes, dont celle déjà décriée du Code civil indien. L'opposition, dont le parti du Congrès de Rahul Gandhi est à la peine, affaiblie par des procédures judiciaire tout sauf impartial. Narendra Modi et son nationalisme hindou décomplexé a été porté par une campagne de presse clairement en sa faveur. Le rouleau compresseur Modi est en marche et rien ne semble pouvoir l'arrêter.
Valérie Crova en direct de New Delhi avec Fabien Gosset pour les moyens techniques.
Et les élections en Inde, il en sera question à 8h15 dans la chronique géopolitique de Gallagher Fenwick.
À présent, cette situation extrêmement confuse ce matin en Iran. Israël a lancé son attaque représailles contre la République islamique. Quelle est l'ampleur de cette riposte à celle du week-end dernier sur Israël? Difficile à ce stade des opérations d'en savoir davantage. Alors avec vous, Louise Baudet, rembobinons le film des événements démarré ce matin à 4h20. Heure de Paris, il était 6h10 à Téhéran.
Effectivement, 3 explosions qui surviennent près d'une base militaire d'Ispahan dans le centre de l'Iran. C'était en effet il y a un peu plus de 3 heures. Pas de confirmation officielle qu'il s'agit d'une attaque, encore moins qu'il s'agit d'une riposte israélienne. Ce que l'on sait, c'est que la défense anti-aérienne iranienne a été activée dans plusieurs provinces et qu'elle est entrée en action à Ispahan, ville très peuplée et ville stratégique, car ses environs abritent les principales installations nucléaires du pays, dont l'immense usine d'enrichissement de Natanz. Selon les autorités iraniennes, 3 drones ont été abattus, mais il n'y a pas eu d'attaque de missiles jusqu'à présent et il n'y a pas eu d'explosion au sol. La situation à Ispahan serait normale. Quant à l'activité aérienne suspendue en fin de nuit dans plusieurs aéroports du pays, elle reprend, en tout cas depuis les 2 aéroports de Téhéran, la capitale. Ce sont en fait les médias américains qui parlent d'attaque israélienne, le New York Times ainsi que plusieurs chaînes de télévision qui citent des responsables américains et israéliens qui restent anonymes. Les chaînes NBC et CNN rapportent qu'Israël a prévenu Washington à l'avance de la frappe sans que les États-Unis n'approuvent l'opération. Alors l'Iran serait-elle en train de minimiser ce qui serait une véritable riposte? Impossible de l'affirmer ni de l'infirmer pour l'instant. À noter toutefois que des frappes israéliennes ont visé à l'aube une position de l'armée syrienne dans le sud de la Syrie. C'est ce qu'indique ce matin l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Merci Louise Baudet. Et ajoutons qu'il y a quelques heures, le ministre iranien des Affaires étrangères a promis que Téhéran ferait regretter à Israël toute attaque contre son pays. C'est devant ce même Conseil de sécurité de l'ONU que les États-Unis ont utilisé leur droit de veto pour bloquer l'adhésion pleine et entière de la Palestine aux Nations Unies. Veto américain condamné par le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza, qui assure que son peuple poursuivra sa lutte jusqu'à l'établissement d'un État palestinien indépendant, pleinement souverain, avec Jérusalem pour capitale. Et c'est par ailleurs dans ce contexte de forte tension au Moyen-Orient qu'Emmanuel Macron recevra aujourd'hui à l'Élysée et le Premier ministre libanais et le commandant en chef de l'armée libanaise. Il s'agit de discuter des moyens d'assurer la stabilité du Liban.
Dans l'actualité aussi, les deux mineurs en garde à vue dans l'enquête sur la mort de Philippe, 22 ans, Grande Sainte, seront présentés aujourd'hui à un juge d'instruction.
L'un d'eux a reconnu les faits et explique aux enquêteurs qu'il avait organisé ce guet-apens via un site de rencontre. Une marche blanche organisée par la famille se déroulera ce matin à 11h à Grande Sainte. La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, dénonce un nouvel acte insupportable. Et cela après l'agression de deux fillettes. C'était hier vers 14h devant l'école alsacienne à Souffel-Weyersheim, près de Strasbourg. Une fillette de 11 ans a été blessée au couteau devant l'école. L'autre de 7 ans, poignardée dans un square à proximité. Elle souffre de blessures légères. Les enfants de l'école primaire ont été confinés durant 1h30. Récit signé Mochaya.
C'est vers 14h qu'un homme de 30 ans, décrit par des témoins comme roux, avec un pantalon bleu, s'en prend à une enfant de 11 ans, juste devant les grilles de l'école, alors que les élèves rentrent en classe. Il la touche légèrement au cou, avant de prendre la fuite en courant. Là, l'agresseur croise une mère et sa fillette de 7 ans près d'un square. Il blesse l'enfant à la nuque. Cet homme, décrit comme atteint de troubles mentaux, est rapidement interpellé par les gendarmes, sans résistance, à quelques rues de là. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Aucun élément de radicalisation ne permet de rattacher chez ces agressions à un acte terroriste, indique la procureure de la République de Strasbourg. Les motivations de l'agresseur sont pour l'heure inconnues. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire sur mineurs de 15 ans est ouverte. Les deux victimes agressées ont pu quitter l'hôpital hier soir, mais on apprend qu'une autre adolescente de 14 ans, élève du collège voisin, a fait un malaise cardiaque durant le confinement. Elle a dû être hospitalisée dans un état très grave. Une enquête doit aussi déterminer les circonstances de cet arrêt cardiaque.
Mochaya, la violence des jeunes. Le Premier ministre veut serrer la vis des élèves perturbateurs. L'idée de Gabriel Attal est de pouvoir leur retirer des points sur les notes au brevet, CAP ou baccalauréat et d'inscrire une mention dans le dossier Parcoursup. Gabriel Attal veut également ouvrir le débat sur l'excuse de minorité.
Et c'était justement une idée de Gabriel Attal du temps où il était ministre de l'Éducation nationale, Laurence, l'uniforme pour les collégiens.
Et la collection Rentrée 2024 a été présentée hier dans l'un des 5 collèges de la Côte d'Azur où est lancée l'expérimentation. Pour 240 euros par collégien, entièrement payé par le conseil départemental, les élèves auront plusieurs tenues, neuf tenues bleues et blanches, des polos, des sweatshirts, une veste. Une manière pour l'Éducation nationale de réduire les inégalités, lutter contre le harcèlement, accentuer le sentiment d'appartenance. Une présentation des tenues, suivie par Laurent Vareille de France Bleu Azur.
Du bleu et du blanc, siglé au nom du collège. Voilà pour les couleurs. Pour les types de tenues, il y a des t-shirts, des polos, des sweats et une veste zippée. Maya, 15 ans, juge son nouveau style.
Le polo, par exemple, c'est pas trop le genre de tenue que j'aime bien, enfin les polos en général, mais tout ce qui est de la veste, même du sweat, je trouve ça assez bien fait, ça rend plutôt bien.
Quand on demande, les élèves sont en majorité contre, avec un argument, on nous enlève notre liberté, notre personnalité, disent-ils, alors qu'à l'adolescence, on devrait pouvoir l'affirmer. Pourtant, Maya a quand même changé d'avis.
J'avais vraiment un a priori tout fait. Au final, de la voir comme ça, ici, portée, ça change complètement mon avis dessus.
Mais que pense la communauté éducative de cet uniforme? Céline Bartoletti, la proviseure du collège d'Odé à Nice.
Moi, je ne parle pas d'uniforme et je n'en ai jamais parlé dès le départ, parce que d'abord, ça prête à confusion pour les jeunes. Pour eux, un uniforme, c'est militaire, avec des médailles, etc. Donc, je préfère la tenue commune, parce que l'établissement a travaillé là-dessus, sur le sentiment d'appartenance, sur la fierté de faire partie de l'établissement du collège d'Odé. Et donc, c'est un mot qui illustre bien notre projet.
Mais le projet du gouvernement, partagé par le département des Alpes-Maritimes, cofinanceur, c'est aussi de réduire les inégalités sociales et de lutter contre le harcèlement, ce qui offusque la CGT Éducation, qui parle d'un coût de 2 milliards d'euros en cas de généralisation du dispositif, l'équivalent de 25 000 enseignants, qui serait beaucoup plus utile, affirme le syndicat.
Laurent Vareille de France Bleu Azur. L'entreprise américaine Meta, maison mère de Facebook et d'Instagram, lance des formations gratuites sur l'intelligence artificielle, appuyées par Simplon, un centre de formation français spécialisé dans le numérique. Il s'agit d'ateliers d'une demi-journée ouverts à tout le monde, qui vont se tenir dans plusieurs grandes villes, Lille, Paris, Lyon, Bordeaux, Montpellier. L'objectif, initier 30 000 Français à ce nouvel outil technologique. Le premier atelier s'est tenu hier à Marseille. Reportage Mathilde Vinceneuve.
Dans la salle, une centaine de personnes écoutent le formateur expliquer les bases de l'intelligence artificielle. Laurent Soli, vice-président de Meta pour l'Europe du Sud.
Qu'est-ce que l'IA générative ? Cet outil qui permet de générer un contenu, un texte, du son, une image. Comment ça fonctionne ? Et puis leur montrer aussi les limites. Sur les contenus qui peuvent en sortir, montrer qu'il y a des biais.
Certains sont déjà des connaisseurs. Anthony, 38 ans, travaille dans le design de graphique et utilise l'IA, ChatGPT, pour résumer ses réunions, par exemple.
Ça fait déjà partie de mon quotidien depuis très longtemps et je sens que ça bouge tellement vite que j'ai même pas le temps d'optimiser déjà les outils que j'utilise, qu'il y en a d'autres qui sortent. Donc voilà, le but c'était de me mettre aussi peut-être à jour avec de nouveaux outils.
À côté de lui, Franck, 60 ans, il travaille dans la création sonore et l'IA bouscule son métier.
Je commence à voir certains partenaires qui nous demandent, voilà, écoute, on n'a pas le temps, ça serait peut-être pas mal qu'on utilise l'IA pour faire une musique rapidement. Et là, la question des droits se pose même plus. La question du coût, c'est ah bah ça coûte rien, ça s'est fait en 3 minutes. Ça pose un vrai problème.
Beaucoup ici sont conscients des dangers de l'IA, mais y voient une opportunité. Agère était caissière. Au chômage, elle se forme pour être développeuse informatique.
J'ai la motivation d'apprendre.
Ça pourrait vous aider à trouver du travail ?
L'intelligence artificielle ? Oui. C'est le domaine d'avenir, quoi.
À l'issue de cet atelier, les participants repartent avec un certificat, une ligne de plus sur leur CV.
Mathilde Vinceneuve, une nouvelle version de Macbeth de Shakespeare à la Comédie-Française. Version signée de la metteuse en scène italienne Sylvia Costa. C'est la deuxième fois seulement que la pièce est montée dans la salle Richelieu. Un spectacle, Stéphane Capron, d'une grande tension. Très sombre, à l'image de ce couple sanguinaire, auteur d'un régicide.
On peut voir Macbeth comme une pièce politique sur la folie meurtrière d'un homme prêt à tout pour accéder au pouvoir. Sylvia Costa a choisi d'en faire une analyse psychologique poussée sur le couple. Lady Macbeth, incarnée par Julie Sicard, est ici une sorcière qui manipule son mari.
Elle a mis dans la bouche de Lady Macbeth aussi beaucoup de textes de Macbeth lui-même. Elle est dans la conception du projet et lui sera dans la conséquence du projet. Elle a voulu en faire de ce couple une bête à deux têtes. Elle a travaillé sur la gémellité des deux personnages et elle a choisi une lecture très psychanalytique de la pièce.
La mise en scène emprunte les codes des films fantastiques. Musique inquiétante, lumière en clair-obscur, décor sombre. Noah Morgenstern, dans le rôle de Macbeth, porte une chemise rouge sang et revendique cette atmosphère de film d'horreur.
Il y a quelque chose comme ça qui se dépose entre les spectateurs et nous. Cette espèce de chose un peu électrique, impalpable, comme un nuage plein de sens et plein de fantômes. Faire peur au théâtre, c'est une gageure. En tout cas, si on ressent qu'il y a dans l'air quelque chose d'électrique auquel on croit, alors c'est qu'on se dirige, il me semble, au bon endroit.
Sylvia Costa a concentré le spectacle en 2h10, ce qui amène une grande tension sur le plateau. C'est éprouvant à jouer pour les acteurs, éprouvant à suivre pour les spectateurs. On en sort un peu lessivé.
Macbeth, la Comédie Française. Merci Stéphane Capron.
C'était le journal de Laurence Thomas à suivre sur Inter, l'édito politique et le débat éco.